Samedi matin, un porte-avions américain s'est fait tirer dessus au missile balistique. L'Amérique a répliqué, bien sûr, en coulant un pétrolier iranien et en désarmant deux autres. L'Iran a riposté sur trois navires de plus. On parle d'un drone qui s'est fait abattre. On parle, bien sûr, du détroit par lequel passe 20% du pétrole mondial. Et puis, ce matin, on rouvre après un week-end. Réaction du baril, plus 0,5%. On peut pas dire que ce soit vraiment l'euphorie sur le baril. Et puis, le plus beau dans tout ça, c'est que même si vous vouliez faire quelque chose, si vous voudriez intervenir sur les marchés, vous ne pourriez pas parce qu'aujourd'hui, Wall Street est fermé. Les bordets, les actions, l'obligataire, tout est à l'arrêt. Donc, escalade militaire majeure, baril à 96$ et des poussières, et pas un bouton sur lequel on peut vraiment appuyer. Ou alors, ils font compter sur l'Europe, qui pense, comme d'habitude, qu'elle est indispensable et qu'elle peut s'en sortir quand les Américains sont pas là. Bonne chance. Mais bon, restez quand même jusqu'au bout parce que je vais vous raconter comment un ministre américain a quand même réussi dimanche à faire passer 9 millions de barils d'un coup dans un détroit avec un seul bateau. Je vous jure, les mecs, ils sont hyper balèzes. Bienvenue dans ce Morning Bull Live du lundi 7 septembre 2026. Cette semaine, la BCE va monter les taux et je suis Thomas Veillet. Ça n'a rien à voir, mais la BCE va quand même monter les taux. Alors au programme ce matin, on a une guerre navale que personne ne veut appeler une guerre, un marché qui achète des puces coréennes parce qu'un modèle d'IA a changé de numéro, des créations d'emplois qui sont en fait des serveurs de restaurants et un président américain qui vient de retirer au patron de la Fed le droit de ne rien faire. Allez, c'est parti, on commence la semaine tout de suite avec les Américains qui sont en vacances.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Donc samedi, les gardiens de la révolution iranienne tirent des missiles balistiques en direction de deux navires américains, un porte-avions et un destroyer. Caramba, encore raté, pas de blessés, pas de bateau coulé, rien que dalle. La réponse américaine est bien sûr immédiate et surtout, elle est arithmétique. Le Kilo est coulé dans le golfe d'Oman, le Stark One est désarmé, le Downey aussi, tout ça près de l'île de Kang. Trois bateaux. Et puis alors bien sûr, l'amiral qui commande le CENTCOM pour les États-Unis a sorti une phrase qu'il faut apprécier à sa juste valeur parce qu'elle a l'élégance d'un comptable qui fait ses comptes un dimanche soir. Et donc il a dit, je cite, « Si vous tirez sur deux de nos bateaux, nous en coulerons trois des vôtres ». Voilà, c'est ça la diplomatie internationale, version 2026. Une simple règle de trois, œil pour œil, dent pour dent, mais un petit peu plus quand même. Et puis alors, dimanche, la réponse du berger à la bergère, Téhéran annonce avoir touché trois pétroliers qui empruntaient des routes, je cite encore, non autorisées, plus un drone de surface américain. Et le président du Parlement iranien prévient que l'époque des réponses proportionnées est terminée, que désormais ça sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus lourd et beaucoup plus douloureux. Mais le meilleur dans tout ça, c'est le responsable de la sécurité nationale iranienne. Lui, il annonce carrément qu'il va décréter une nouvelle zone d'interdiction maritime à l'extérieur du détroit d'Ormuz. Dorénavant, on ne se contente plus de fermer le détroit d'Ormuz. Maintenant, on ferme aussi la salle d'attente qui est à l'entrée du détroit d'Ormuz. Et à ce rythme-là, demain matin, on décrétera une zone d'interdiction autour de la zone d'interdiction qui est autour de la zone d'interdiction. Comme ça, tout le monde sera content et surtout, plus personne ne bougera. Bon, maintenant, on va parler politique et politicien. On est tous d'accord pour dire que Trump n'est pas toujours très équilibré dans ses prises de position. On va y revenir plus tard. Et depuis quelques temps, on a aussi eu droit à Scott Bessent qui fait la guerre économique et qui tente de se substituer à la Fed. Mais alors là, on vient de mettre à jour et mettre en avant un nouveau membre de l'équipe génialissime de Trump. Il s'appelle Chris Wright et il défend depuis longtemps une ligne très pro-énergie fossile et très très sceptique vis-à-vis du discours climato-sceptique dominant. En 2019, il est même allé jusqu'à boire du liquide utilisé dans la fracturation hydraulique pour démontrer, selon lui, que certains produits employés dans le fracking n'étaient absolument pas dangereux. Son entreprise Liberty Energy mettait parallèlement en avant des additifs chimiques présentés comme beaucoup plus verts. En janvier 2023, il a publié une vidéo sur LinkedIn dans laquelle il déclarait très clairement il n'y a pas de crise climatique et nous ne sommes pas non plus au milieu d'une transition énergétique. Il estime également que le mouvement climatique mondial est en train de s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions. Et enfin, il conteste l'utilisation de l'expression « pollution carbone » qu'il juge trompeuse. Un type donc plutôt sympa et surtout très très modéré et qui démontre de plus en plus que l'équipe Trump ne détonnerait pas s'il devait remplacer le casting de Vol au-dessus d'un nid de coucou dans le remake de 2026. Bref, dimanche, le secrétaire américain à l'énergie a fait le tour des plateaux télé, CNN, Fox, tout le monde, et il vient nous expliquer trois choses. Tout d'abord, selon lui, le trafic dans le détroit d'Ormuz dépasse les 9 millions de barils par jour. Deux, selon lui toujours, on est revenu à, je cite, 2/3 ou plus des flux d'avant-guerre. Et trois, et c'est ma préférée, et c'est toujours selon Chris Wright, l'US Navy est en train de gagner cette bataille. Pas franchement frappant au premier abord. Donc tout est formidable en gros si on écoute Chris Wright et on peut retourner se coucher. C'est la paix totale dans le détroit de Trump. Sauf que, pendant qu'il dit ça à la télévision, il y a des gens dont c'est le métier de compter les bateaux, avec des satellites, des transpondeurs et des données de suivi maritime. Et eux, qu'est-ce qu'ils comptent? Eh bien, ils ont compté 10 navires de commerce par jour, le plus bas niveau depuis le mois de mai. Et puis alors, last but not least, samedi, on était carrément au top avec un seul passage. Donc, je vous laisse faire le calcul, hein, 9 millions de barils sur un seul bateau samedi. Si c'était le cas, ce serait avec un seul navire qui n'existe pas, puisqu'aucun bateau au monde ne peut emporter autant de barils en même temps, à moins, bien sûr, qu'il bosse avec l'équipe d'Harry Potter. Et c'est pas la première fois qu'il nous fait un coup pareil. C'est pas la première fois. Il nous a déjà fait le coup la semaine dernière. Oui, parce que la semaine dernière, c'était 17 millions de barils en lundi, avec 5 navires observés, puis 40 navires le lendemain. La comptabilité de guerre s'améliore de jour en jour, mais elle a un tout petit problème de mathématiques quand même. Et puis alors, quand on voit le nombre d'âneries annoncées par Chris Wright, il serait bon qu'il se dise peut-être, hein, que le liquide de fracking qu'il a avalé, qu'il a bu ces dernières années, a peut-être finalement quelques conséquences. Et puis alors, pour clôturer les histoires du détroit d'Ormuz et de la guerre avec l'Iran, il y a Trump qui vendredi a qualifié ce conflit de « small potatoes », vous vous en souvenez, et le vice-président qui lui refuse carrément d'employer le mot de « guerre », parce qu'il dit « je n'appellerai pas ça une guerre, les 18 militaires américains qui sont morts depuis le mois de février apprécieront, mais en tous les cas, selon le gouvernement, c'est pas une guerre ». Il faut avouer que ça devient vraiment compliqué de trouver un membre de cette administration qui n'a pas l'air complètement idiot dès qu'il ouvre la bouche. Mais alors, fondamentalement, si le vrai chiffre qu'on nous donne, c'est pas dans le détroit, où est-ce qu'il est, ce chiffre qui est vraiment important pour les marchés et pour l'économie mondiale? Eh ben, figurez-vous, il est à la pompe. Oui, vendredi, l'essence sans plomb américaine a touché les 4,15 $ le gallon, un record pour un mois de septembre. Et puis, alors, lui, le diesel, carrément, il a fait beaucoup mieux. Il a touché 5,88, qui est un record, tout simplement, absolu, tout mois confondu, de toute l'histoire. Donc 4,15 $ le gallon, juste pour dire du mal, ça fait 1,10 $ le litre en Europe. Hein. J'en connais dans la région qui vendraient leur Tesla à ce prix-là. Sauf que l'Américain n'a jamais payé ça. Et c'est surtout le seul indicateur économique qu'il consulte tous les jours sans le vouloir, en grand, en lumineux, au bord de la route. Il ne lit pas le CPI, il lit le panneau de la station-service. Et ça, c'est pas top pour les midterms. Bon, alors avec tout ça, vous devez vous dire que les marchés doivent être en train de paniquer. Ben non, évidemment que non, parce que tout va bien quand même globalement. Il faut pas se mentir. Que nenni, les marchés ne baissent pas, les marchés ne paniquent pas. Et de toute façon, les Américains sont pas ouverts. Mais si les Américains sont pas ouverts ce matin, eh bien le Nikkei prend quand même 2,2%. Le Kospi avance de 2,9%, tiré par, je vous le donne en mille, Hynix et Samsung. Et finalement, il y a que Hong Kong qui est dans le commun ce matin. Et si vous voulez savoir la raison de cette euphorie, eh bien elle est assez simple. C'est pas de la géopolitique, c'est pas les taux, c'est même pas le baril non plus. C'est tout simplement qu'OpenAI a annoncé la sortie de GPT-6. À ne pas confondre avec GTA, c'est GPT-6. Voilà. C'est tout, c'est assez simple. L'indice des semi-conducteurs américains a donc pris 3,4% vendredi et toute la mémoire asiatique s'est enflammée dans la foulée à cause de l'intelligence artificielle. Donc résumons la logique de la séance de Marine, s'échange des missiles balistiques dans le golfe Persique et le marché achète des fabricants de puces sud-coréens parce qu'un modèle d'intelligence artificielle est passé de 5 à 6. Mais maintenant, ce qu'il faut vraiment comprendre, et c'est peut-être là le cœur du sujet en ce moment, peu importe l'état de l'économie, peu importe la géopolitique, peu importe l'état mental de ceux qui nous gouvernent, ce que le marché veut croire, veut entendre, eh bien c'est tout simplement une seule chose. Et cette chose, c'est que l'IA va payer pour tout, absolument tout. Elle va payer pour la guerre, l'inflation, la dette, les taux à 5%, les tankers qui coulent, tout devient supportable si la productivité explose et si les marges suivent, bien sûr. Et là, je vais être honnête avec vous, hein, c'est pas complètement idiot, c'est même carrément une thèse défendable. Elle a juste un tout petit défaut, elle est invérifiable pendant encore 3 ou 4 ans. Enfin, ChatGPT, il dit 3 ans, et puis Claude, il dit 4 ans. On vit donc en théorie ce matin, et tant mieux, je dirais, parce qu'en théorie, en général, tout se passe bien. C'est quand on en vient à la pratique que ça se complique. Et puis alors justement, la démonstration parfaite est tombée ce week-end. Nvidia a confirmé le rachat de Hugging Face pour 13 milliards de dollars. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la maison, Hugging Face, c'est la plateforme où sont stockés et distribués les modèles d'intelligence artificielle dits ouverts, c'est-à-dire gratuits, par opposition aux modèles fermés et payants, donc d'OpenAI et d'Anthropic, entre autres. Alors pourquoi le type le plus riche du hardware dépense-t-il 13 milliards et des poussières pour rendre les logiciels gratuits? Mais parce que sa stratégie, la stratégie de Nvidia, est plutôt limpide. Nvidia gagne pas son pognon sur des modèles, il gagne sur le matériel. Donc plus les modèles sont gratuits, plus les gens en consomment, plus il faut de puces, de cartes graphiques, de serveurs, et plus Jensen encaisse du pognon. C'est donc le marchand de pelle pendant la ruée vers l'or, sauf qu'en plus, il offre la carte du terrain, le pique-nique et le transport jusqu'à la rivière. Et les deux seules boîtes que ça embête profondément, bah devinez qui c'est. C'est précisément les deux plus gros clients de Nvidia, OpenAI et Anthropic. Il n'y a donc pas de mot français élégant pour décrire cette situation, alors je vais rester poli et je vais rien dire. Par contre, petit thermomètre de l'intelligence artificielle qui est assez intéressant pour ceux qui veulent surveiller la fièvre, l'assembleur taïwanais qui monte les serveurs de Nvidia vient de publier ses chiffres de vente mensuelles et elles sont en hausse de 52% sur le mois. 52% en un mois. Bah, tant que ce chiffre-là, il monte, on peut dire que la machine Nvidia continue de cartonner. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Encore et encore et encore, il n'y a plus qu'à acheter et attendre que ça monte. Autrement, vendredi, les États-Unis ont publié donc 162 000 créations d'emplois pour le mois d'août. On en attendait 53 000. Vous avez largement dû en entendre parler ce week-end. Donc se tromper aujourd'hui de 200% sur son propre marché du travail, c'est devenu tellement routinier que plus personne ne le relève et tout le monde s'en fout. Mais passons. Si vous voulez savoir ce qu'on en dit et ce qu'on en pense, moi je vous renvoie directement sur le Swiss Bliss de ce week-end, parce que là, je vous raconte tout en détail pendant 10 minutes. On va pas recommencer ce matin, c'est la même chose. Donc le Swiss Bliss de ce week-end, il est là. Je vous laisse aller voir. Donc ce qu'il faut retenir pour ces chiffres de l'emploi, tout simplement, c'est que le marché a applaudi, l'économie américaine est solide, et les probabilités de hausse des taux ont donc clairement bondi de nouveau. Mais retenons quand même une chose de ces chiffres qui sont meilleurs que les attentes, c'est le secteur des technologies de l'information, celui qui est censé être en surchauffe absolue en ce moment, celui qui reçoit des centaines de milliards d'investissements, celui qui justifie toute la hausse du marché, ce secteur-là, il a perdu des emplois. Ah oui, bien sûr, l'intelligence artificielle est en train de faire son job. Clairement, elle détruit des postes, et pas qu'un peu, et à une vitesse extrêmement élevée. Et pendant ce temps-là, les salaires horaires américains progressent de 3,1% sur un an, contre une inflation à 3,4%. Le salarié américain moyen ne déclenche aucune spirale inflationniste. Il la subit. Il est en train de perdre du pouvoir d'achat en travaillant plus. Et tout ça, ça se produit dans une économie sous perfusion de dettes. Au mois de juillet, le déficit fédéral mensuel a quasiment quadruplé à 432 milliards de dollars aux États-Unis. Ce qui revient plus ou moins à dire que le gouvernement américain a signé 3200 dollars de reconnaissance de dette au nom de chaque foyer américain sur une durée de 30 jours. Tout ça pour recruter des serveurs et des profs et virer des informaticiens. Et puis alors, l'addition, justement, parlons-en, même si le marché obligataire est fermé aujourd'hui, il faut poser les niveaux parce que c'est là que tout va se jouer encore une fois cette semaine. Le 30 ans américain, donc, est à 5,2470, son plus haut depuis 2007. Le 10 ans, lui, est à 4,789, en hausse de 60 points de base depuis le 1er janvier. Alors là aussi, petit calcul, chaque point de base supplémentaire coûte environ 4 milliards de dollars par an au trésor américain. Donc 60 points de base depuis le mois de janvier, ça représente 240 milliards de dollars de charges annuelles en plus, uniquement parce que la courbe a bougé, sans qu'un seul dollar de dette supplémentaire n'a été émis. Le service de la dette américaine aujourd'hui tourne autour de 1200 milliards par an, ce qui représente à peu près 1 dollar d'impôt sur 5 encaissés par l'État fédéral. 1 dollar sur 5, hein, c'est juste pour payer les intérêts. Et puis alors mercredi, le Trésor annoncera les détails d'un programme de rachat de sa propre dette longue. On en saura un petit peu plus. Il espère faire baisser les taux longs pendant que la banque centrale de Kevin Warsh, elle envisage de monter les taux courts la semaine prochaine pour combattre l'inflation. Donc là, on a clairement deux mecs de la même équipe qui sont même pas d'accord sur le but dans lequel il faut tirer les goals. Et puis alors, bien sûr, il y a une histoire ce week-end dont personne ne parlera jamais assez. Elle est toute petite, elle est assez discrète et elle est peut-être la plus importante de toutes. Parce que la Banque centrale des Pays-Bas a décidé de rapatrier son or de New York en invoquant explicitement, je cite, « l'instabilité géopolitique ». Les Français, eux, ils ont déjà vendu leur dernier lingot d'or qui était stocké là-bas. Ils ont fait 15 milliards de dollars de plus-value, au passage, hein, ce qui ne se refuse pas pour une fois que le gouvernement Macron gagne de l'argent quelque part. Le fonds souverain norvégien, c'est 2400 milliards de dollars sous gestion, c'est le plus gros du monde. Eux, ils proposent de couper les investissements dans les bons du trésor américain et de faire tomber sa poche obligataire d'État de 70 à 50%. Et puis alors pour terminer, les détenteurs étrangers de dettes américaines qui représentaient près de 56% du marché après la crise de 2008 n'en pèsent aujourd'hui plus que 31%. Alors attention, bien sûr, c'est pas une crise, hein. Personne n'est en train de claquer la porte ou de taper contre les murs. Personne ne fait de communiqué de presse. C'est peut-être justement pour ça que ça est en train de devenir inquiétant. Oui, parce que fondamentalement, la confiance que les grands pays se faisaient mutuellement est en train de partir en vrille depuis que l'agent Orange a bien fait comprendre au monde entier que c'était me, myself and I. Et évidemment, on ne pouvait pas finir sans lui, donc sans parler de Donald Trump, puisque évidemment, comme c'est un week-end, il nous en a refait une. Oui, parce que vendredi, Papy Trump s'est délecté des chiffres de l'emploi, puis il a balancé sa bombe et il est parti en week-end prolongé. Le mec a simplement posé sa grenade et il s'est cassé. Et puis le poste, hein, en majuscule tel quel, et on se le répète encore en boucle, et on va se le passer pendant les longues soirées d'hiver, c'est « baisser les taux ou j'arrête de commercer avec les pays avec lesquels nous avons un déficit ». Alors, les pays avec qui il a un déficit, c'est grosso modo la plupart du monde. Les gros pays, en tout cas. Et c'était que le début, hein, parce que tout le week-end, le vice-président, le secrétaire au Trésor et le conseiller économique ont enchaîné. Ces derniers, ils ont même réussi à traiter carrément les membres du comité politique monétaire de « clown ». C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Mais bon, rappel utile quand même, hein, Kevin Warsh a été nommé par Trump lui-même en janvier et il a passé tout son été à expliquer qu'il faudrait plutôt monter les taux que les baisser. Alors, reprenons le raisonnement, parce qu'il est magnifique fondamentalement. Donc Trump menace la Fed, il menace le gars qu'il a placé lui-même en place. Mais si Trump exécute sa menace, il va fermer les frontières commerciales et dynamiter les chaînes d'approvisionnement, qu'est-ce qui va se passer? Bah les prix, mathématiquement, logiquement, rationnellement, ils vont monter, donc l'inflation va exploser. Et que fait une banque centrale face à une inflation qui explose? Eh, ben oui, on le sait tous, elle monte les taux! Donc Trump est en train de menacer de fabriquer de l'inflation supplémentaire si Warsh refuse de baisser les taux qu'il maintient élevés à cause de l'inflation. C'est pas simplement une erreur de raisonnement, c'est juste complètement idiot comme raisonnement. Alors, je sais pas si ça surprend encore quelqu'un, personnellement pas du tout, mais en tous les cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Mais pour être franc, le vrai problème est ailleurs. Et je crois qu'il est quand même un tout petit peu sérieux. Parce que Trump vient simplement, avec ses déclarations, de retirer à Kevin Warsh le droit de ne rien faire. Non, parce que réfléchissez 10 secondes. Vendredi, on aura la publication du CPI américain. Imaginons qu'il soit bon. Imaginons que l'inflation se détende. Dans ce cas-là, la décision techniquement correcte, celle qu'un banquier central formé dans les règles de l'art prendrait, c'est d'attendre plus tard pour prendre une décision. Sauf que depuis vendredi après-midi, ne pas bouger ne serait plus une décision monétaire. Ce serait une reddition, ce serait rendre les armes, menacer publiquement un banquier central, c'est le meilleur moyen de le forcer à faire exactement l'inverse de ce qu'on lui demande, juste pour prouver qu'il existe, juste pour prouver qu'il compte. Et alors, jeudi, n'oublions pas non plus, c'est la BCE qui va monter son taux à 2,5% avec une probabilité de 99,2%. Autant vous dire que c'est plus une prévision, c'est carrément un fait divers. Donc, une réunion de la BCE qui sera tenue exceptionnellement à Berlin, joyeuse coïncidence au moment même où l'AFD vient de rafler 44,4% des voix en Saxe-Anhalt contre 18,3% pour les conservateurs de Merz, avec plus de 80% de participation. Premier parti d'Allemagne dans les sondages nationaux. Surveillez le Bund ce matin, il aura peut-être un avis sur la question de l'arrivée d'un parti d'extrême droite à des niveaux de pouvoir comme ça en Allemagne. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce lundi 7 septembre ? Bah d'abord, on va retenir qu'on s'est tiré dessus au missile balistique proche d'un porte-avions et que le baril n'est monté que de 0,5%. On retiendra aussi qu'un ministre américain raconte n'importe quoi à la télé pour chauffer la salle Et puis on ne sait pas trop ce qu'il a bu jusque-là, apparemment de liquide de fracking. Et puis on retient que le marché achète des puces coréennes parce qu'un modèle d'IA est passé de GPT-5 à GPT-6. On retient aussi que les économistes se sont complètement vautrés sur les chiffres de l'emploi de vendredi dernier, mais que ça ne choque plus personne. Ou alors à moins que tout ça ne soit qu'une gigantesque magouille, mais je vais pas dire ça parce que ça fait quand même complotiste. Et puis alors, pour terminer tout ça, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, parce que franchement, je trouve que en ce jour de Labor Day, de fête du travail aux États-Unis, c'est absolument magnifique. Jeudi dernier, le département du travail américain a publié un chiffre qui n'est apparu quasiment nulle part, dans aucune dépêche, rien du tout. Pas une ligne. La part du travail dans le produit intérieur brut américain, dans le PIB, est tombée à 52,8%. Alors vous me direz, et alors, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, c'est tout simplement le plus bas de toute l'histoire de la série statistique. Une série qui commence en 1947. Donc le département du travail a annoncé aux travailleurs américains qu'ils n'avaient jamais aussi peu compté dans l'économie depuis 80 ans. Exactement 3 jours avant qu'on ferme la bourse de New York pour célébrer la fête du travail, le Labor Day aux États-Unis. Et puis alors, pendant tout ça, vous ce matin, vous allez devoir aller bosser pendant qu'eux se reposent, en achetant peut-être des actions d'entreprise dont la rentabilité record vient précisément de là. Cette semaine donc, la BCE jeudi à 14h15, conférence de presse à 14h45, et surtout le CPI américain vendredi à 14h30, le rendez-vous important parce qu'il tombe bien sûr 5 jours avant la Fed. Consensus à 0,4% sur le mois et à 3,4% sur une année. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. On like, on s'abonne, on partage et on commente. Et on revient demain, bien sûr, parce que je serai aussi là demain. Passez une bonne journée. Allez, bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.